Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Lire en Bulle. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez entendre, je ne vais pas vous parler de Star Wars ni de comics avec DC ou Marvel. Je vais vous parler d'une série télé que j'ai vue dernièrement et que j'ai vraiment vraiment kiffé ma race. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas accessible en France. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à convaincre les mastodontes des SVOD comme... comment ça s'appelle, Netflix ou Prime Video à être sorti en France. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Trek Lower Deck. Alors, qu'est-ce que c'est Star Trek Lower Deck? C'est une série humoristique en animation sur Star Trek qui est à la suite du film Star Trek Nemesis. Ça se passe même quelques années plus tard que Star Trek Nemesis. Je n'ai pas l'année exacte, donc je pourrais pas vous dire. Et on suit l'équipage de l'USS Cerritos, qui n'est clairement pas le meilleur équipage de Starfleet. Mais on ne suit pas le capitaine, ni le premier officier, ni les officiers de la passerelle. On va suivre ce qui se passe dans les decks en dessous. Donc dans les ponts en dessous, avec des enseignes principalement. Et je trouve le principe original. Par contre, quand ils avaient annoncé la série, il faut que je le dise clairement, j'avais clairement peur parce que je voulais pas que Star Trek, qui est mastodonte de la SF, qui existe depuis les années 66, donc qui s'approche des 54 ans en septembre, je voulais pas que la série soit tournée au ridicule. Ça m'aurait bien fait chier. Donc je savais pas comment fallait prendre la nouvelle. J'avais un peu peur de voir ce qu'allait donner la série. Et finalement, je trouve que c'est une des meilleures séries de l'ère Kurtzienne, si ce n'est pas la meilleure. Et je vous explique tout ça maintenant. Comme je vous le disais, on suit l'équipage des decks inférieurs. La particularité de Lower Deck, donc en plus d'être une série humoristique, c'est que ça reprend également la tradition de Star Trek. Ce sont des épisodes standalone, c'est-à-dire que on peut juste regarder un épisode, ça suffit. Il y a pas, si t'as loupé l'épisode précédent, c'est pas grave. Il y a rien de très majeur, à part quand t'arrives sur la fin de la saison où les épisodes s'enchaînent. Et que l'intrigue se suit, surtout sur les deux derniers épisodes. Mais à part ça, il n'y a rien de dramatique et ça suit parfaitement les séries à l'ancienne de Star Trek. C'est le premier gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que la série est vraiment conçue pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek. Et qui veulent découvrir Star Trek d'une autre manière, contrairement à Discovery, où là aussi c'est une série où on n'a pas besoin d'avoir vu les autres Star Trek, mais que les épisodes se suivent. Donc c'est compliqué. Et est-ce que Discovery respecte vraiment ce que voulait faire Roddenberry? J'ai des doutes. Est-ce que Lower Deck suit un peu plus ce qu'aurait voulu faire Roddenberry? J'ai des doutes aussi, mais un peu moins de doutes. Donc voilà. Dans Star Trek Lower Deck, on va suivre donc un équipage dans le Lower Deck avec deux personnages principaux, qui est l'enseigne Bommler l'enseigne Mariners. Et après, on va avoir également deux autres enseignes. Un qui a un implant cybernétique. Même on zappait son nom, j'aurais dû travailler, c'est pas grave, mais voilà. Et pareil, une enseigne médicale, là aussi j'ai complètement oublié son nom, et c'est une Orion. Donc dans Star Trek, les Orions, ce sont des esclavagistes et compagnie. Donc voir une Orion arriver dans Starfleet, c'est très bien. Ça me fait un peu penser également à Nog quand il est arrivé à Starfleet. C'est ce côté un peu race extraordinaire qui rentre dans Starfleet, j'aime beaucoup. Surtout que vu que Orion ne fait pas partie de la Fédération, elle a dû avoir une lettre d'un officier supérieur qui la recommande. Donc je suis curieux de savoir qui, pourquoi, comment, mais bon, ça j'espère que ça sera peut-être un peu plus enseigné dans la saison 2. Et donc voilà, on suit cet équipage de Lower Deck faire des conneries, faire des gaffes et compagnie. On est vraiment très loin de ce qu'on peut voir dans les séries Star Trek, où généralement on voit l'élite de l'élite, ou presque l'élite de l'élite, et que voilà, même si cette image s'est légèrement dégradée avec... légèrement dégradée. Est-ce qu'on peut vraiment dire légèrement ? Allez, on va dire légèrement dégradée dans Voyager avec l'ancienne Kim qui faisait de temps en temps quelques gaffes, et que tout Vogue le reprenait. Donc voilà, c'est peut-être ce genre de petites choses qu'on pouvait voir dans Star Trek, mais c'était gentil et c'était pas des incapables, c'était quand même l'élite. Là, c'est pas l'élite, c'est les incapables de Starfleet. Et de voir ce genre de choses, c'est assez sympathique. Et puis pareil, le Cerritos, vu que c'est pas le meilleur des vaisseaux de Starfleet, on les voit faire des missions tertiaires. Voilà, ils font pas le premier contact. De temps en temps, ils font le second contact, voire même le troisième contact. Parce que voilà. Donc c'est vrai que voir ce genre de choses, c'est complètement inédit dans l'univers Star Trek. Voir des stand-alone, ça faisait très longtemps qu'on n'en a pas vu, et voilà. Et contrairement à Picard ou à... Ah merde, à Discovery, ça ramène un message positif. La Fédération est toujours là, elle est toujours puissante. Il se passe certaines choses on peut voir les enseignes faire certaines choses qui ne sont pas admises dans le règlement, mais c'est pas forcément un mal, parce que en fait ils aident la population, même si théoriquement c'est interdit par la fédération. Donc voilà, donc c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé. Et au début, tu dis « ouais, bof ». Et quand tu arrives à la mi-saison, tu dis « putain, ouais, encore un épisode ». Et puis plus ça va, plus on s'y accroche et plus on retrouve cette image d'optimisme qui est propre au Star Trek, tout en voyant les choses qui arrivent. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée, que je conseille à tout le monde, même s'il faut la télécharger illégalement. On s'en moque, la série est très bien montée et plus ça va, plus on arrive sur des épisodes de Star Trek comme vous pouvez en avoir l'habitude dans les séries comme Deep Space Nine, Voyager, The Next Generation ou encore The Original Series. Donc voilà, c'est pour ça que la série, j'adhère et que j'accroche. Pareil, un épisode, alors ça c'est l'avant-dernier épisode de la saison. Comme je dis, c'est du stand-alone. Ils ont décidé de faire un épisode dédié au Holodeck. C'est quelque chose qu'on trouve ça purement dans les séries Star Trek à partir de The Next Generation, où on passe 45 minutes dans l'Holodeck et où il se passe quelque chose. Et ça, c'est très bien pensé, c'est très bien mené, c'est très drôle, parce qu'en plus, ils ont décidé de faire une parodie des films. Alors, je dirais peut-être parodie du film, des films, des vieux films et des films récents. Parce qu'on peut voir les titres défiler comme on pouvait le voir dans les premiers films avec l'équipe originale de Star Trek, donc avec Kirk, Scott, McCoy et compagnie, et on voyait le titre comme ça défiler. À la fin, on voyait la signature des auteurs, enfin le nom des auteurs sérigraphiés, qui c'est assez sympathique. Et en fait, pendant le film, de temps en temps, il disait mais comment t'as pu, enfin dans le film Holodeck, quand il y en a un qui dit mais comment t'as pu faire ça, et puis l'autre qui dit mais on s'en fout, on est dans un film. Il dit ah oui d'accord, oui c'est vrai que dans le film c'est pas logique. Et là ça fait écho directement au film de J.J. Abrams qui ont été beaucoup critiqués là-dessus, parce que beaucoup d'explications ont été données par disant regardez, on s'en fout, c'est un film. Donc là-dessus c'est un petit plus qui rend hommage et qui critique en même temps les nouveaux films. Alors il y a toujours cet effet d'halo de lumière qu'on peut voir dans le dessin animé, mais qui est assez atténué, sauf que dans cet épisode ils ont vraiment pousser la chose au vice. Donc on voit vraiment ces effets de lumière bien exagérés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pareil, la méchante du film qui est jouée par Mariner me fait vraiment penser à merde, comment ça s'appelle, à Nero dans le premier film Star Trek de 2009. On peut voir les images du crash du Cerritos dans le film. Alors, je spoil complètement la chose, mais bon, ça me faisait penser au film Star Trek Génération. Enfin voilà, il y a énormément de clins d'œil et de choses positives dans cette série. C'est du Star Trek, c'est du pur Star Trek en animation avec un peu d'humour. Donc pour ça, il faut mettre un peu son amour propre de côté pour les fans archi fort, archi dur, en se disant bon ben voilà, c'est du Star Trek que je vais regarder, certes humoristique, mais c'est vraiment pas la Rick and Morty, mais c'est vraiment positif. Il y a pas mal de clins d'œil en ce qui concerne les armes, quelques personnages dont, ben, maintenant de toute manière ça a tellement été annoncé partout, William Riker qui revient avec Troy sur le dernier épisode de la série, donc ça c'est très bien. Apparemment il y aura encore plus de clins d'œil à des personnages dans la saison 2, et voilà. En ce qui concerne mon personnage préféré, ça va être Mariners qui va être plus développé dans la saison 2 parce qu'il y a beaucoup de secrets qui est autour d'elle. C'est une enseigne qui apparemment qui a pu monter en grade, mais qui s'est fait casser et qui ne respecte pas les règles de Starfleet. Donc ouais, j'aime ce personnage un peu chaotique, et puis voilà. Donc du coup, je vous conseille de télécharger cette série dès que vous pouvez. Elle est trouvable encore sur internet, je sais pas pendant combien de temps, mais voilà. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce podcast. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée.